Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver, l'ouvreuse Louis-Marie et Guillaume Sidom. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Louis-Marie.
Comment allez-vous Guillaume ?
Ça va mieux, merci.
Toutes vos fans étaient là la semaine dernière pour prendre de vos nouvelles. Elles se demandaient ce qu'il vous arrivait, alors rassurez-les.
Bah tout va bien.
Tant mieux. Et Guillaume Sidom, ce soir, c'est on sera tous les deux.
Oui.
Oui.
En tête à tête.
pas complètement. Vous comprendrez
pas pourquoi. Complètement. Ouais.
Nous avons une invitée à nos côtés qui est venue assister à l'émission, Laetitia comment dire, Laurent Martin, lui. Ah. Je vous donne le micro, Laetitia.
Bonsoir tout le monde. Ah.
Je ne sais pas à quel micro elle est. Ah si, oui, voilà. Allons-y, Laetitia.
Bonsoir tout le monde.
Ah, voilà, c'est mieux. Je m'étais mélangé dans les numéros de micro. Vous voyez, il faut faire attention. Bonsoir Laetitia et merci d'être venue nous rendre visite et vous restez avec nous jusqu'à 20h. Alors je disais justement, Guillaume, que Laurent Martin n'était pas là. Lui, il n'est pas malade, ouf. Tant mieux, il a pris quelques jours de vacances.
Bien mérité.
On est content pour lui et il nous racontera tout ça quand il sera avec nous. La semaine prochaine, à propos de films et de rubriques et toutes ces choses dont on vous parle au cours de cette émission, eh bien, Guillaume, vous allez avoir du pain sur la planche puisque vous allez nous faire le teaser, de votre retour de manivelle. Écoutons-le.
Oh, un grand classique du cinéma américain, un film culte, on va prendre La Route ce soir.
La Route ou La Rue, non ?
La Rue aussi, tout à fait.
Un petit peu. Ça c'est pour le retour de Manivelle. Et comme vous n'avez peur de rien, vous êtes attelé aux rubriques habituellement tenues par notre ami Laurent.
Avec grand talent, je vais essayer d'être à son niveau.
Alors vous allez conseiller quelques films à voir
alors,
à la télé ?
Alors, 4 films à voir à la télé depuis son canapé. Et puis j'aurai un conseil Blu-ray.
Un conseil Blu-ray. Et puis évidemment, avec l'ouvreuse, vous chargerez des films de la semaine.
Exactement.
Ça en fait des choses. On ne va entendre que vous ce soir.
Vous aussi, Guillaume
Sidom. Un petit peu. Mais vous êtes indispensable, Guillaume Sidom. À propos d'indispensable, notre homme de loi des séries et son tribunal ouvrira tout à l'heure. Il est là avec nous. Il nous laisse son petit commentaire de l'actualité des séries et des films aussi. Et ce soir, c'est un peu particulier ce qu'il nous propose d'écouter, puisqu'il va nous parler de Kathleen Kennedy. Et qui est Kathleen Kennedy ? Eh bien, c'était elle qui était la responsable de la gestion de la franchise Star Wars. C'est-à-dire Star Wars aussi bien au cinéma qu'en série pour le petit écran. Donc, elle avait une tâche compliquée, voire difficile. Et s'en est-elle bien tirée ? Bien, justement, vous le saurez en écoutant Grégory Com. Et puis, dans le panier de l'ouvreuse, eh bien, vous retrouverez l'ouvreuse qui va scruter l'affiche de la semaine et vous l'avez compris, ce soir, elle scrutera en compagnie de Guillaume Sidom. On parlera des reprises sur le petit écran, mais aussi sur le grand. Et puis, il y aura des coups de cœur, bien sûr, car on a toujours des films, des manifestations, voire des expositions qu'on a envie que vous alliez voir, justement, de notre part. On est ensemble jusqu'à 20h. Bon début de soirée avec nous. Allez, installez-vous confortablement. Le film commence.
Oui ?
C'est le bureau de l'hôtel. Il y a 2 messieurs, faut-il les faire monter ?
Comment s'appelle-t-il ?
Attendez une seconde. Monsieur Chalmers et un de ses amis.
Dites-leur d'attendre et passez-moi le 421 75 96.
Franck ?
Oui.
Chalmers est en bas avec un ami, il demande s'il peut monter.
Chalmers à 1h du matin ? Non, ne les laisse pas monter, je suis là dans 5 minutes.
Bon. Dans un instant.
Dites, s'il vous plaît, ne restez pas devant la porte.
Mais en attendant, je vais vous donner les derniers résultats de baseball.
En Ligue nationale, les Géants de San Francisco ont battu les Dodgers par 2-0 en semi-nocturne et ensuite par 4-1, tandis que les Cards...
Ah, c'est sans ambiguïté aucune. Fallait pas laisser monter ce fameux Chalmers hein, à cette heure-ci de la nuit. C'était pas recommandé, n'est-ce pas, Guillaume ?
Eh oui, et c'est pour Bullitt, film signé Peter Yates, sorti en 1969 sur aux écrans avec Steve McQueen, Don Gordon, Jacqueline Bisset, musique signée Lalo Schifrin que vous entendrez à la fin de ma chronique. C'est parti pour 10 minutes 53 secondes de la course-poursuite automobile la plus célèbre du cinéma. Au casting, une Ford Mustang GT fastback verte suivie par une Dodge Charger noire dans les rues de San Francisco. Et au volant de la Mustang, il y a évidemment Steve McQueen dans le registre du blond ténébreux. Eh bien, c'est la perfection faite homme. 10 minutes 53 secondes, le clou de ce polar sorti donc en 1968. 3 semaines de tournage juste pour filmer la poursuite des plans restés célèbres. Et comme cette image dans l'image, le pare-choc de la voiture ennemie dans le rétro qui barre le cadre, le visage impassible, totalement impassible de Steve McQueen qui occupe tout l'écran, celui de son ennemi filmé en contre-plongée, 10 minutes 53 secondes muette, même la musique se tait quand les moteurs rugissent. Le mixage sonore est ici le socle de la mise en scène, la Mustang plus stridente, plus pétaradante, plus nerveuse, la Dodge elle plus grave, plus assourdie, plus rampante, plus inquiétante, le crissement des pneus dans les virages, le klaxon horrifié du camion qui arrive en face, le choc de la tôle, le spoum des bagnoles bondissant des hauts de San Francisco puis s'écrasant sur le bitume, 10 minutes 53 secondes qui s'achèvent sur une explosion, un contre-champ très furtif, et la séquence suivante a déjà commencé sans un mot et sans une respiration, car c'est chez ces gens-là, monsieur, bien on ne parle pas, on conduit. J'ai donc vu Bullitt et je regrette de ne pas l'avoir vu avant, d'abord parce que nous y retrouvons évidemment un Steve McQueen au sommet de son art, dans le rôle donc de Frank Bullitt, un lieutenant de police magnifique et incorruptible qui redonne foi en la justice, un personnage viril et taiseux comme nous les aimons au cinéma, et je crois bien qu'il n'a jamais été aussi classe que dans ce film. Une icône du chic des 60s, col roulé marine, costume gris sur chemise bleu clair, un père beige, la costumière du film influence encore et encore les vestiaires masculins partout dans le monde.
Et puis il y a l'autre personnage central dans ce film dont vous avez parlé, une voiture.
Oui, la Ford Mustang pilotée par Frank Bullitt, et pourtant nous ne la voyons pas plus de 10 minutes à l'écran, c'est dire, mais cette Ford Mustang GT Fastbreak verte restera à jamais gravée dans les mémoires de ceux qui ont vu le film. Elle a d'ailleurs été vendue à un collectionneur pour plus de 3,7 millions d'euros récemment. C'est la voiture la plus chère de tous les temps et elle le vaut bien. Souvenez-vous, la fameuse course-poursuite dans les rues de San Francisco entre la Mustang et une Dodge pilotée par des mafieux que Bullitt tente d'arrêter. Une scène spectaculaire, la première course-poursuite du cinéma moderne, avec des véhicules allant à plus de 200 km/h et pour certains pilotés par Steve McQueen lui-même. C'est simple, c'est l'une des scènes les plus cultes du cinéma. 10 minutes de pure vitesse sans dialogue, on n'entend que les pneus qui crient, c'est les moteurs qui grondent. Voilà pour la séquence qui saura ravir les fans de turbo et d'automoto, mais pas que. C'est aussi une leçon de cinéma, il y a tout dans cette scène, un mixage sonore nous donnant l'impression d'être sous le capot de ces véhicules, des plans serrés sur les chauffeurs où l'on perçoit toute la tension de cette course-poursuite et qui répondent à des plans inclinés magistraux qui rendent honneur aux hauteurs de San Francisco. On n'a jamais aussi bien filmé San Francisco que dans cette scène et l'on n'a jamais aussi bien filmé la virilité telle qu'on la conçoit au XXe siècle, celle d'un homme toujours élégant qui ne parle pas, qui fonce tout droit et qui ne se retourne pas. À retrouver donc ce vendredi 23 janvier 21h sur France 5 et en Blu-ray et DVD chez Warner Bros. Et d'ici là, ouvrez l'œil et le bon, et surtout, allez au cinéma.
un thème au moins aussi célèbre que la course-poursuite automobile dans les rues de San Francisco. Dans le film Bullitt, Lalo Schifrin, c'est lui qui a composé la bande originale de ce film. Un des plus extraordinaires, compositeurs de musique américain. Enfin, américain. Peut-être pas américain d'origine, mais vous savez qu'aux États-Unis, on vient d'un peu partout dans le monde, même si on repousse certains en ce moment, mais on a tendance à oublier qu'au départ, on n'était pas américain. Avec les bruits que font les pistolets et les revolvers quand ils tirent dans le film et ce qu'ils brisent aussi sont indispensables à la musique de Lalo Schifrin.
N'oubliez pas l'ouvreuse sur Radio Présence.
L'ouvreuse scrute l'affiche de la semaine avec vous, Guillaume Sidom.
Eh oui, à l'affiche de cette semaine, on va commencer par Amour Apocalypse, Dan Aymon avec Patrick Yvon, Piper Perabo, Connor Chessup et Gilles Renaud. Pas de blonde, pas de char, pas de cash. C'est ainsi avec une franchise bourrue que son propre père va résumer la vie d'Adam. Propriétaire d'un chenil, ce dernier à 45 ans était éco-anxieux. Alors via la ligne de service après-vente de sa toute nouvelle lampe de l'immunothérapie, bien il fait la connaissance de Tina et cette rencontre inattendue dérègle tout. La terre tremble, les cœurs explosent, c'est l'amour. Début d'une insolite histoire d'amour au milieu d'une bande d'animaux disneyens, de feux de forêt et d'ouragans. Et les jeunes réalisatrices québécoises ont l'art de proposer de nouveaux récits sentimentaux en s'appuyant sur des sujets très contemporains. Ici donc, la chronique d'une tempête amoureuse née de préoccupations écologiques dans une ambiance tour à tour caniculaire et glaciale, magnifiquement éclairée avec des ruptures de ton qui font se télescoper touchante mélancolie et sommet de loufoquerie. La cinéaste réussit surtout un beau portrait d'homme. Louis-Marie, vous avez bravé le froid et la météo et rencontré la réalisatrice québécoise Anne Aymon.
Et oui, j'ai même chaussé mes raquettes pour marcher dans la neige et j'y suis arrivé. Anne Aymon, oui, a répondu à quelques questions. Oh, j'étais pas tout seul, nous y sommes allés en bande. Toujours est-il que vous parliez de son personnage Adam, qui a 45 ans hein, à peu près dans le film, même je crois qu'il le dit très précisément. Et il est éco-anxieux, mais l'éco-anxiété, elle vient d'où? Elle vient surtout de la réalisatrice. Et ce que je vais vous faire écouter de ses propos, vous allez comprendre quand même que ça la travaille beaucoup, le dérèglement climatique.
La piqûre de l'écologie, je ne l'ai vraiment pas eue. Il y a 50 ans, je n'étais pas née, mais je l'ai eue plus tard que tôt. C'est-à-dire que des fois, je repense à tout ça, puis je me dis, ouais, quand même, en 2020, j'avais tout en main pour savoir ce qui se passait sur Terre. Les informations existaient. Ça fait longtemps qu'on sait qu'une perte du vivant, le réchauffement climatique, les changements, tout ça. Mais c'est en 2020, je ne peux pas expliquer exactement pourquoi c'est l'année où c'est devenu personnel. Où ça m'a angoissée réellement. C'est comme si c'était des informations qui m'atteignaient, mais sans m'atteindre réellement personnellement. Puis pour la première fois en 2020, j'ai été prise d'une réelle angoisse. Puis au-delà d'une angoisse, je dirais d'une tristesse face au monde à venir, puis face à ce qui allait disparaître. Ça, et la pandémie, et le confinement, et mélangé à plein de choses personnelles aussi, puis c'est ce que Amour Apocalypse essaie de dire. On mélange le personnel et le social.
On mélange le personnel et le social, et vous avez compris que le personnel, ça a beaucoup travaillé, en tout cas, le climat et ce qu'il advient de la planète a travaillé beaucoup à Nemo, au point que elle était elle aussi dans le même état que son personnage, peut-être encore plus. D'ailleurs, la luminothérapie, elle en a fait aussi. C'est comme ça qu'elle a découvert ces fameuses lampes. Cette lampe que va utiliser Adam, qui va l'acheter pour essayer justement, en faisant de cette luminothérapie une habitude quotidienne, pour pouvoir se soigner. Mais c'est la rencontre, en fait, la rencontre, ce coup de téléphone au service après-vente concernant cette lampe. Il tombe sur Tina, vous l'avez dit, Guillaume Sidom, et là cette rencontre va tout bousculer chez lui, cette voix, cette façon de lui répondre, cette façon d'accueillir ses tourments, ça va le transformer, alors qu'elle dépasse complètement sa tâche. Sa tâche, c'est simplement de dire ce qu'on peut faire avec la lampe, et si elle est en panne, où on peut appuyer, sinon il faut la renvoyer pour en avoir une autre. Mais à partir de là, vous l'avez dit, l'amour est décalé, l'humour, pardon, décalé, l'amour, non, il n'est pas décalé, mais et c'est une façon de l'appréhender aussi qui est particulier quand même dans le film. Donc l'humour décalé, pince sans rire, on parlait d'absurde, de loufoque. Bon ben, écoutez ce qu'en dit Anne Aimant.
C'est un film qui est très sérieux sur le fond, mais qui ne se prend pas du tout au sérieux. Il y a certains moments, je pense, de vraie émotion, mais c'est quand même un film qui, oui, joue avec l'absurde à plein de niveaux. Déjà, c'est un film qui me ressemble beaucoup. Je suis désespérée, mais je ris énormément. Désespérée, c'est peut-être un peu fort. Puis d'autre part, ce côté-là, loufoque et absurde, je trouve qu'on vit dans un monde de plus en plus saugrenu, quand même. Ça va dans tous les sens, ça m'étonne. Moi, je pensais, en vieillissant, comprendre de plus en plus ce qu'on fait sur Terre et comment vivre. Et je me réveille à 43 ans, puis pour moi, c'est complètement l'inverse. Je comprends de moins en moins le monde dans lequel on vit. Je comprends de moins en moins les directions que prennent l'humanité. Mais j'ai quand même essayé de faire un film qui soit absurde, loufoque, mais tout de même tendre à l'égard des humains.
Absurde, loufoque, tendre à l'égard des humains, ben c'est ça, mais elle montre bien, à travers l'histoire de ces personnages et dans les images qu'elle propose, cette façon de montrer le paysage, ce qu'on voit du Canada, on n'a pas tellement envie d'y vivre. Hein, c'est des paysages, vous savez, c'est cette campagne, cette ville et cette campagne qui a été perturbée, massacrée par les différentes industries, par les mines et tout, et ce qu'il en reste abandonné, et c'est ce qu'on voit la majeure partie du temps est tournée en 35 mm, l'image est toujours poussiéreuse, on a l'impression qu'on pourrait passer un petit coup de plumeau sur l'écran pour pouvoir enlever tout ça. Il n'y a que les moments où, quand il fait de la luminothérapie, Adam imagine qu'il est dans ces paysages enneigés extraordinaires qu'on peut voir au Canada, et à ce moment-là, la nature reprend ses droits et on a droit à une image magnifique, un peu comme cette lumière blanche, cette fameuse luminothérapie. Toujours est-il que la réalisatrice Anne Aimant refuse les codes classiques et les réfute de la comédie romantique. La narration est imprévisible, vous l'avez compris. Elle alterne burlesque et gravité, situations absurdes et moments poétiques. Et derrière son apparente légèreté, le film pose une réflexion politique et sensible sur la possibilité d'aimer et d'espérer dans un monde fragilisé. Voilà ce que veut montrer Amour Apocalypse d'Anne Aimant.
Oui, on va faire une petite revue de presse autour de ce film, cher à Laurent Martin. Une comédie romantique enlevée et maligne selon Cinématiseur. Télérama, sous la plume de Guillemette Audicino, a beaucoup aimé. L'énergie est renouvelable hein, chez les amoureux, même éco-anxieux. C'est la trame de cette comédie québécoise, aussi mélancolique que truculente. Du chaos climatique peut naître encore plus de chaos sentimental. C'est donc le pari de cette comédie éco-anxieuse, à la fois bordélique et d'une grande finesse, où l'amour devient le laboratoire du désarroi contemporain, selon les fiches du cinéma. Enfin, petit bémol, pour Criticat.com, a trop littéralisé sa dimension satirique, le film finit par tomber à plat. À noter que le film Amour Apocalypse est visible à l'American Cosmographe à Toulouse. À l'affiche aussi cette semaine, le match du Kremlin d'Olivier Assayas avec Paul Dano, Jude Law et Alicia Vikander. Russie dans les années 90, l'URSS s'effondre dans le tumulte d'un pays en reconstruction. Un jeune homme à l'intelligence redoutable devient le conseiller officieux d'un ancien agent du KGB, promis un pouvoir absolu, le futur tsar Vladimir Poutine, actuellement au pouvoir avec ce thriller ténébreux dans les arcanes du pouvoir russe. Le réalisateur français réussit l'adaptation, et c'est peu de le dire, du livre de Giuliano Daumpoli sur un conseiller de Poutine. Que le cinéaste ait été fortement séduit par cet ouvrage n'est guère étonnant, puisque reste qu'adapter ce roman ample et prémonitoire publié en 2022, année, je le rappelle, de l'invasion de l'Ukraine, réclame une certaine audace dont l'auteur français ne manque pas. Il s'en tire très bien en livrant un thriller efficace sur les rouages et les arcanes de l'organisation du pouvoir russe. Un homme va servir de passeur idéal, Vadim Baranov, Paul Dano, inspiré du vrai Vladislav Surkov. C'est lui donc le mage du Kremlin, personnage central, théoricien du concept de démocratie souveraine, leader brillant et influent, ayant préféré rester dans l'ombre, et Jude Law reste très convaincant dans la peau de l'actuel président russe. Voir ainsi à l'écran, dans le cadre d'une fiction, Poutine et son principal conseiller représentés de manière aussi invraisemblable a de quoi bluffer. Et dans ce théâtre de dominants assoiffés de pouvoir, d'hommes qui se veulent finalement les maîtres du monde, seule Xenia, jouée remarquablement par Alicia Vikander, la compagne magnétique et lucide de Vadim, apporte un peu de conscience morale et d'humanité. Le film est captivant et à découvrir donc à l'Utopia Borde-Rouge et au Pathé Wilson. À l'affiche, Diamanti de Ferzan Ospetek avec Stefano Accorsi, Luisa Ranieri, Jasmine Trinca et Vanessa Scalera. Un réalisateur de renom va réunir ses actrices préférées. Il va leur proposer de réaliser un film sur les femmes. Il les projette alors à Rome dans les années 70 dans un magnifique atelier de couture pour le cinéma et le théâtre, dirigé par deux sœurs très différentes. Et dans cet univers peuplé de femmes, le bruit des machines à coudre résonne, les passions et la sororité s'entremêlent. À voir à l'ABC de Toulouse. À l'affiche aussi, Hamlet de Chloé Zhao, la genèse fictive de la pièce Hamlet à travers l'histoire du jeune couple formé par Agnès la guérisseuse et William Shakespeare, avec Paul Mescal, Emily Watson et Jessie Buckley. Cette dernière a obtenu le prix de la meilleure actrice dans un drame, et Hamlet le prix du meilleur film dramatique au Golden Globe 2026, un film que l'on peut découvrir au cinéma Le Grand Palais de Cahors. À l'affiche également, Grand Ciel d'Akiro Hata, visible notamment à l'Utopia Borde-Rouge. Christie and His Brothers de Brandon Conti, lui, est visible à l'ABC de Toulouse. Le documentaire de la semaine, Ludovic, signé René Letzjus au CGR Montauban de Rodez et de Tarbes. On peut aussi découvrir dès 8 ans Olivia en stop motion d'Irène Ibora à l'ABC de Toulouse. On suit dans ce premier long métrage une famille en difficulté financière où Olivia, pour protéger son petit frère de la dureté de la situation, lui fait croire que les épreuves qu'il traverse ne sont finalement que fiction, comme dans un film. Le film d'horreur Primate de Johannes Roberts au Pathé la Belge, et puis enfin le film d'animation Tafiti, signé Cosima Hellman, Burger Lars Dietrich et Thomas Schumekert. I'm a real wild one, wild one, wild one, wild one. Stop.
Iggy Pop, on peut le retrouver dans le film d'Anémon, Amour Apocalypse, pour redonner encore cette ambiance très particulière que décrit Anémon dans son film. Un morceau de 1986 qui était d'ailleurs une reprise d'un morceau lui-même qui venait des années 50. Vous voyez que finalement, on est de nos jours, mais c'est un peu intemporel finalement ce film-là. Dernière collaboration entre Iggy Pop et David Bowie, puisque c'est lui qui produit le disque dont est extrait ce morceau. Et notez qu'à la guitare, il y a Steve Jones qui tenait la guitare des Sex Pistols quand même. Et tout de suite, notre homme de loi des séries qui va nous parler, Grégory Com, du départ de Kathleen Kennedy, de la gestion de la franchise Star Wars, qu'elle concerne cette franchise, le cinéma comme les séries.
Je déclare l'audience ouverte.
Cher Louis-Marie, aujourd'hui, chronique un peu particulière, mais qui a un impact direct sur le monde geek et le monde des séries télé, c'est le départ de Kathleen Kennedy de la gestion de la franchise Star Wars. Alors, pourquoi c'est important, mais pourquoi je pense que c'est trop tard? Kathleen Kennedy, c'est une productrice légendaire. Elle a produit des films avec Spielberg, avec George Lucas, et quand elle a repris Star Wars, au moment où cette licence a été rachetée par Disney, j'étais plutôt content. C'était en 2012, donc ça fait un petit moment. Alors certes, ils avaient détruit tout l'univers étendu, c'est-à-dire des centaines de romans et de BD qui complétaient l'univers auquel j'étais vraiment attaché, mais avec la promesse de faire un univers étendu, complètement cohérent, parce qu'il y avait des petites incohérences quand même dans l'ancien univers étendu, et ambitieux, et en y mettant des moyens. Et franchement, on ne pouvait être que content. Moi, j'ai été rassuré. Derrière arrive l'épisode 7, et on se rend compte de plusieurs choses. On se rend compte qu'en fait, Kathleen Kennedy, c'est une businesswoman, et donc pour rentabiliser l'achat, qui a quand même coûté 4 milliards, elle sort un film très très vite. Bon, L'épisode 7 n'est pas terrible, c'est un remake en raté du 4, mais c'est un bon teaser pour la suite. Et on se dit, ok, c'est cool. Arrive l'épisode 8, qui est complètement incohérent avec le 7, et qui détruit la saga, qui se moque de la saga, et qui détruit le personnage iconique de Luke Skywalker. Et donc là, on se rend compte qu'en fait, Kathleen Kennedy, elle est dans à la fois une idéologie capitaliste, en disant il faut vite, vite, vite sortir des choses, même si ça n'a pas de cohérence. D'ailleurs, l'épisode 7, l'épisode 8, l'épisode 9 n'ont pas de cohérence au niveau de la façon de filmer, mais aussi au niveau du scénario. Et elle est dans une entreprise wokiste où la totalité des personnages masculins doivent être détruits pour valoriser des personnages féminins. Alors, valoriser des personnages féminins, je n'ai rien contre. Bien au contraire, il y avait des super personnages féminins dans l'univers Legend, l'ancien univers étendu. Sauf que là, les personnages sont très très mal écrits. Le personnage de Rey n'a aucun sens. D'ailleurs, l'actrice l'a dit, la pauvre, ça n'a pas dû être facile. Quand elle a commencé l'épisode 9, on lui a dit, tu seras la petite fille d'Obi-Wan Kenobi. Et au milieu de l'épisode 9, on lui dit, bah non, en fait, t'es la petite fille de Palpatine. Donc, en fait, on voit que c'est fait n'importe comment, juste pour effacer les anciens personnages. Et derrière, il y a des séries télé qui sortent. Alors, il y a des choses potables et des choses mauvaises. Il y a eu le Mandalorian, qui a été une très bonne série télé pendant les deux premières saisons, avec l'apparition iconique à nouveau de Luke Skywalker, et une saison 3 ratée. La série Obi-Wan Kenobi qu'on attendait depuis des années, qui est assez ratée aussi et qui est incohérente, je vais pas revenir là-dessus. La série Acolyte qui était aussi incohérente dans le lore, là aussi on voit la promesse de on va faire quelque chose de totalement cohérent, c'est faux. On a eu la série Star Wars Rebels qui était intéressante, mais ils ont fait une suite Ahsoka qui est ennuyeuse au possible et pas particulièrement bien filmée. Et on a la très bonne série Andor, par contre, qui est excellente, mais qui est regardée par personne et qui a floppé. Donc, aujourd'hui, quel bilan on peut dresser de l'action de Kathleen Kennedy ? Alors oui, elle a fait de l'argent, mais la licence est morte. Plus personne n'attend un film Star Wars, tout le monde s'en fout. Quelque chose qui était exceptionnel, qui était mythique, est devenu quelque chose de passable, qu'on regarde comme ça. La sortie d'une série Star Wars n'est plus un événement, j'en veux pour preuve Skeleton Crew, qui n'est pas mauvaise en soi, mais dont personne n'a parlé parce que tout le monde s'en fout. Donc, elle s'en va avec un bilan, pour moi, en termes gestion de l'œuvre, ce qu'elle a produit en termes culturels, nul. C'est-à-dire qu'elle a rendu une copie, en plus de 10 ans, incohérente, qui n'a apporté aucune plus-value dans le lore, c'est-à-dire l'histoire, et qui, au fond, n'a eu aucun impact dans le monde des séries télé et le monde du film. Alors que Star Wars, à chaque fois que ça sortait, ça avait un impact énorme. Et quand on s'attendait à des séries télé Star Wars, on s'est dit, ils vont révolutionner le monde des séries télé, comme l'ont fait Lost, 24 heures chrono, ou Game of Thrones à une époque. Non, ce sont en fait des séries qui sont totalement oubliable. Donc la suite, c'est Dave Filoni qui reprend Star Wars et qui est plutôt un bon conteur d'histoire, qui a fait les premières saisons de Mandalorian, il a fait la troisième aussi, mais on le sait sous contrainte d'écriture, qui a fait Star Wars Rebels, qui étonnamment, il paraît qu'il n'aime pas trop Andor. D'un côté, c'est vrai que la série, moi je l'aime bien, mais elle n'a pas marché, donc c'est qu'elle ne doit pas toucher un cœur de cible énorme. Donc il y a un espoir, moi j'en ai pas. J'en ai pas parce que je pense que c'est trop tard, je pense que la licence elle est abîmée. Et à part si on nous disait, en fait on revient à zéro, on repart sur les 6 films et on reconstruit quelque chose de cohérent, on n'y arrivera pas. La vraie question qu'on peut se poser aujourd'hui, de façon générale, sur Star Wars mais sur Disney, sont-ils encore capables de nous conter des histoires en sortant d'un cahier des charges, soit wokiste d'un côté, soit purement capitaliste. Je pense qu'ils n'en ont plus la capacité. Je pense qu'on a vécu il y a longtemps les meilleures années de Star Wars et qu'on ne les revivra plus. Et je pense de façon générale que la production américaine est en panne. Donc, Kathleen Kennedy s'en va, tant mieux. Mais c'est trop tard. Dave Filoni arrive et en fait, on s'en fout. Et je suis le premier à qui ça brise le cœur. Star Wars n'est plus un événement, c'est quelque chose d'anecdotique. Je vous remercie.
Eh bien voilà, c'est fini, plus de Star Wars. En tout cas, c'est prédit par notre homme de loi des séries. Et en général, il a du flair. Au tribunal des séries, c'est Grégory Combe.
on a cru que c'était Psychose, on n'en était pas loin, et on revient à la comédie, mais une comédie complètement débridée, à la fois fantastique et puis drôle quand même, même si elle est fantastique. Une comédie qui oppose deux femmes, Hélène Sharp et Madeleine Ashton, qui s'entre-déchirent parce que l'une pique les mecs de l'autre ou le mec de l'autre, et ainsi de suite, et toutes les deux vont mener cette bataille toute leur vie, même l'éternité, puisque petit à petit, pour arriver à rester, à garder les traits parfaits, vont avoir recours à la chirurgie esthétique. Donc l'une d'entre elles va épouser un chirurgien esthétique, et puis après il faudra autre chose, et elles trouveront un moyen de conserver, en tout cas de conserver la vie. Est-ce qu'elles seront toujours dans le même état? Ça reste à déterminer. Alors ce film, c'est la mort vous va si bien, de Robert Zemeckis, avec deux actrices formidables, Meryl Streep et Goldie Hawn. C'est elle qui se chamaille, et entre les deux il y a Bruce Willis, qui est le docteur Ernest Bainville, qui sera tour à tour le compagnon de l'un ou de l'autre, et c'est là où justement leur corps peut s'abîmer, mais elles ne mourront pas. Il y en a une, à un moment, qui tombe dans l'escalier. Ça reste un moment majeur du film. Elle tombe dans l'escalier, elle se retourne la tête, elle a le bras en travers, mais elle se relève et elle continue à marcher. Et parce que, en fait, elle est immortelle. Comme l'autre, il manque un bout du corps parce qu'elle a pris un coup de pistolet. Et oui, elle est immortelle. Mais, encore une fois, elle est immortelle, mais le corps, lui, finalement, s'use et s'abîme. Et le chirurgien esthétique ne voudra pas rester avec ni l'une ni l'autre, et surtout pas l'éternité, pour pouvoir les rafistoler. Un film qui a eu un accueil mitigé à sa sortie, mais allez vous faire une idée en allant voir le film La mort vous va si bien, de Robert Zemeckis, qui est capable de tout. Il sait tout faire, Robert.
Tous les registres, c'est incroyable.
Tous les registres, et celui-là en particulier, c'était en 92. Le film a cartonné, même si les critiques n'ont pas vraiment apprécié. Donc le film est à voir en version originale, lundi prochain, 26 janvier à 21h, au cinéma Pathé-Labège. Alors, on en est à faire le bilan de l'année écoulée, l'année ciné 2025. On en avait parlé abondamment la semaine dernière. Vous savez qu'on a toujours besoin de vous, pas, Guillaume?
Oui. Pour voter pour vos 5 films de l'année 2025, vous votez sur cinéma@radioprésence.com. Vous avez jusqu'à mercredi prochain. Et mercredi prochain en direct, on révélera vos 5 films.
Exactement. Alors, pour vous rafraîchir la mémoire, si vous avez quelques trous, c'est le cas de le dire, il y a le Festival Télérama qui revient. Alors, le Festival Télérama, c'est...
au cinéma Le Cratère, à Toulouse.
Et un peu partout dans la région, guetter, vous pouvez voir ces films.
Est-ce qu'on peut peut-être dire une liste des films quand même?
Mais bien sûr, 16 reprises, 16 et reprises. 7 avant-premières.
Voilà, et puis on peut revoir quand même une bataille après l'autre. Paul Thomas Anderson, Black Dog, Un simple accident, Palme d'or à Cannes, L'agent secret, L'inconnu de la grande arche, Valeurs sentimentales, La petite dernière, Mémoire d'un escargot, ça c'est un film d'animation, oui. Nouvelle vague. Partir un jour, Sirat, venez revivre peut-être vos plus beaux souvenirs cinéma de l'année 2025. À noter que
n'oubliez pas, Je suis toujours là, qui a beaucoup aimé Laurent.
Tout à fait. Je suis toujours là, oui.
Ouais, magnifique film de Walter Salles. Ça, c'est pour les reprises. Sinon, il y aura des films en avant-première. Alors, on va pas tous les citer, mais notamment un. J'ai eu l'occasion de découvrir à pied d'œuvre, le nouveau film de Valérie Donzelli, qui est remarquable, avec Bastien Bouillon, indispensable, et tout aussi remarquable que la réalisatrice. Alors,
peut-être qu'on peut préciser juste le tarif quand même, c'est avantageux, avec le tarif, avec le pass que vous trouverez dans le Télérama de la semaine dernière et de cette semaine, ou en ligne exactement. Ça vous coûtera 4 euros par séance.
Alors, si vous avez besoin de vous rafraîchir un peu plus la mémoire encore pour des films sortis en 2025, il y en a d'autres qui ne sont pas proposés par le Festival Télérama, mais qu'on peut voir au pâté, à la belge, au à Wilson, tout ça c'est à Toulouse ou dans la région toulousaine. Alors il y a Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, un des films qui a le mieux marché l'année dernière, le film de Ken Scott. Il y a Un ours dans le Jura, la très belle surprise un peu
décalée,
façon frère Cohen, signé Franck Dubosc, et ça claque. Le film de Clapiche qui avait aussi pas mal marché, La venue de l'avenir. Il y a Dossier 137 de Dominique Moll également. Et puis pour les Américains, il y a Sinners de Ray Coogler.
Oui, oui,
Ryan.
Cette histoire de vampire.
Hein, oui, et de jumeaux et de vampires et de boîtes où on joue du blues, assailli par les vampires. Et puis il y a aussi Life of Chuck de Mike Flanagan. Là aussi, un film un peu particulier, un peu étrange. Ah, et j'avais oublié, pour les films français, L'attachement de Karine Tardieu avec Valeria Bruni Tedeschi, qui est proprement somptueuse. Une autre reprise, encore, c'est Kick-Ass, toujours. Alors, Kick-Ass, c'est aussi au Pâté La Belge. C'est à voir dimanche, 25 juin à 19h. Et vous verrez, Kick-Ass, c'est un super-héros un peu particulier puisqu'il n'a pas de pouvoir, aucun. C'est un jeune adolescent qui décide d'être super-héros. Il suffit pas de décider, faut pouvoir le devenir. Alors il va essayer en tout cas, et dans cette démarche, il va acquérir une certaine notoriété parce qu'il finira par réussir à arrêter quelques méchants, et puis il va tomber sur un duo de professionnels, de justiciers bien plus professionnels qu'eux. Alors, à savoir, alors il faut pas se mélanger dans les noms parce que ils ont leur costume et leur nom de super-héros, mais aussi leur nom à la ville. Alors il y a Mindy McCready, c'est Chloé Grace Moretz, et qui est Hit Girl, et son papa Damon McCready qui est Big Daddy, normal, hein, voilà. Et puis il y a un méchant, évidemment, et les méchants sont toujours méchants. Voilà. Alors, Kick-Ass. Et puis, une dernière chose aussi, il y a Le Sud de Victor Hérissé qu'on peut découvrir à l'American Cosmographe. Et Le Sud de Victor Hérissé, c'est un drôle de film également qui raconte une histoire d'amour bien particulière. En fait, c'est pas vraiment une histoire d'amour. On est dans les années 50. La maison s'appelle La Mouette, dans un village du nord de l'Espagne. Il y a Agustin, qui est médecin et sourcier, son épouse, institutrice révoquée après la guerre civile. Et oui, le franquisme n'a pas beaucoup aimé la position des instituteurs à ce moment-là. Et puis, il y a leur petite fille, Estrella. Et Estrella, est fascinée et adore son père. Et c'est ce que décrit le film. Et elle découvre aussi que son père a aimé une autre femme, qu'il a laissée dans son sud natal. Un film particulier parce qu'il manque tout un pan de cette histoire quand l'enfant devenu adulte va vouloir découvrir ce pays, le sud, ce village dont vient son père, mais les producteurs n'ont pas voulu que Victor Hérissé tourne, ça commençait à coûter trop cher. Alors on reste en suspens, drôle de film que voilà, mais à découvrir. Le Sud de Victor Hérissé, et ça c'est à voir au cinéma American Cosmographe. Et voilà, j'ai à peu près tout dit, sans trop me prendre les pieds dans le tapis. C'est à vous,
très bien.
Guillaume Sidom.
Ah, eh bien, le ciné à la télé, cher à Laurent Martin, on l'embrasse. Commence dès ce soir à 21h sur Arte avec Crazy Heart de Scott Cooper avec Jeff Bridges et Maggie Gyllenhaal. Légende de la country, Bad Black n'est plus dans le coup. Alcoolique, il habite à Houston et vit au rythme de tournées de seconde zone. Lors de l'une d'elles, eh bien, il va faire la connaissance de Jean, mère célibataire, un écrin en or pour un Jeff Bridges très inspiré. Vendredi 23 janvier, 21h sur France 5, j'en ai déjà parlé dans ma chronique, je n'y reviens donc pas, mais l'un des films préférés de Laurent Martin et de Louis-Marie Solaire, Bullitt, signé Peter Yates, rapide, musclé, un polar particulièrement bien servi par un magistral Steve McQueen. Dimanche 21h10, France 2, ce sera La Syndicaliste, un thriller signé Paul Salomé avec Isabelle Huppert, magistrale, hein, et Yvan Attal. Un matin, eh bien, Maureen Kearney est violemment agressée chez elle. Elle travaillait en effet sur un dossier sensible dans le secteur nucléaire français et elle subissait de violentes pressions politiques. Les enquêteurs ne retrouvent aucune trace des agresseurs. Est-elle victime ou coupable de dénonciations mensongères inspirées d'une effrayante histoire vraie, un thriller politique prenant et captivant, hein, sur un scandale d'État porté, je l'ai dit, par une Isabelle Huppert impériale. Et enfin, lundi 26 juin, 20h55, toujours sur Arte, le western de la semaine, sur la piste des Mohawks de John Ford avec Henry Fonda et Claudette Colbert. En pleine guerre d'indépendance américaine, Jill Martin, un jeune colon, se rend à Albany pour épouser Lana Bertz. Et après la cérémonie, eh bien, le couple part en chariot vers la ferme de Jill et en s'arrêtant dans une auberge, eh bien, ils font la connaissance de Caldwell, un espion anglais qui porte un bandeau noir à l'œil, un peu bizarre, une fresque superbe où John Ford va mêler l'intime et le spectaculaire. Et puis mon conseil Blu-ray de la semaine, ce sera Week-end de terreur de Fred Walton, sorti il y a 40 ans, tout juste en 1986. Un groupe d'amis d'école va se retrouver pour passer le week-end du 1er avril. Ce n'est pas une blague, mais une farce, dans un luxueux manoir sur une île privée que possède l'une d'entre eux. Et bien, l'un après l'autre, et bien, les invités vont disparaître. Un coffret Blu-ray plus DVD plus livret avec de nombreux bonus, là, notamment la présentation du film par Mylène Da Silva de la chaîne Welcome to Primetime Beach, et un livret de 24 pages farce et attrape conçu par Marc Toulek, à retrouver pour 24,90€ chez Rimini Édition. Et je vous l'offre, Laetitia, c'est Noël après l'heure.
Précipitation des reprises sur grand écran, j'avais négligé la Cinémathèque, qui a toujours ses quartiers au cinéma Pathé Wilson à Toulouse. Dans la galaxie Truffaut, il ne faudra pas manquer, demain jeudi 22 janvier à 19h30, Chungking Express, un film signé Wong Kar-wai, un film de 1994, l'histoire, la chronique de deux rencontres amoureuses qui se croisent sans se trouver, en fait. Et c'est deux flics qui vont tomber amoureux. Alors, c'est un jeune policier d'une mystérieuse femme fatale qu'il arrive mal à voir son visage. J'arrive pas bien à l'exprimer parce qu'elle porte toujours des lunettes noires. Et puis, il y a une jeune serveuse de fast-food qui tombe, elle, sous le charme d'un autre policier plus âgé qu'elle. Voilà, c'est ça, Chungking Express, le film de Wong Kar-wai. Et puis, il y a aussi, alors beaucoup plus ancien, 1947, Les Passagers de la Nuit, le film de Delmer Dave, Humphrey Bogart, Laurine Bacall, l'histoire d'un type qui arrive à s'évader de prison, qui est condamné à tort pour le meurtre de sa femme, et puis il va trouver de l'aide auprès d'une femme, et il va vouloir trouver quel est le vrai coupable, le véritable assassin, et il va faire de la chirurgie esthétique. Et c'est au bout de 50 minutes de film qu'on voit enfin le visage de l'homme. Ben, c'est Humphrey Bogart. Ben voilà. Ne serait-ce que pour ça, allez voir Les Passagers de la Nuit. C'est dimanche 25 janvier à 17h et tout ça au Pathé Wilson. C'est d'Haïti au
Droney qui a écrit la bande originale du film de Brennan Canty, Christie and His Brother. Allez, on part en Italie ? Ah oui, on y va tout de suite.
Forse tornerà, la mia vita tornerà, vestita di parole e saper vivere e decidere. E quando arriverà, senza macchia, senza età, di questa eternità saremo noi i diamanti, diamanti. E se tutto quello che ho dentro di me sopravvive al destino com'è, il tuo cuore mi resta vicino, una gabbia di cielo io e te. Le ferite cucite d'amore, siamo terra bagnata ad un fiore, il riflesso di noi negli occhi di un bambino che destino ancora non ha. Forse tornerà, la mia vita tornerà, vestita di canzoni e di ricordi. Tu promettimi che quando arriverà e oltre quello
Giorgia Todrani interprète Diamanti, le titre phare du film de Ferzan Ospetek qui met en scène un atelier dans lequel des femmes talentueuse prépare les costumes d'un film magnifique, la vie de ces femmes, leur vie à elles, en dehors de l'atelier et dans l'atelier, c'est superbe.
Ed imparare ad abbracciarsi ora e tornare a splendere, oh, e promettere di essere soltanto me, soltanto me.
Giorgia Trodani, Diamanti, pour le film de Fernand Ospetek. Un mot sur le box-office, c'est La femme de ménage, qui est toujours en tête. Après 4 semaines de classement, une semaine, elle réalise quand même 541 000 entrées pour 3 450 000 entrées cumulées. Avatar est à la deuxième place, 513 000 entrées, 7 millions 9. Et c'est l'affaire Bojarski, sortie la semaine dernière, qui s'en sort bien puisqu'il occupe la troisième marche du podium, 378 000 entrées. Il nous reste une petite minute, le temps de donner les coups de cœur. Alors,
eh bien, pour moi, ce sera Amour Apocalypse, Donnez-moi le match du Kremlin d'Olivia Sayas, Diamanti, Ferzan Ospetek, vous l'avez dit, Louis-Marie. Puis Olivia, le film d'animation stop-motion très touchant.
Laetitia, vous êtes restée avec nous, parfaitement sage, sans bouger d'un millimètre. Vous avez des conseils à nous prodiguer pour le cinéma, là ?
Au niveau des films, dernièrement... j'ai vu un film, c'était tiré sur le pianiste, mais c'était un film de Truffaut.
Oui.
Dans le cadre de la Cinémathèque, donc c'était autre chose. Non, j'ai vu en avant-première Le Mage du Kremlin.
Oui.
En fait, j'avais une autre idée en tête à la base, mais il est très bien monté après fait. C'est vrai qu'il y a une certaine noirceur. Mais je m'attendais à plus découvrir, en fait, au niveau de la personnalité de Vladimir Poutine. Ce n'est pas le cas, c'est vraiment... tiré aussi donc d'un livre, donc c'est pas lui le sujet principal. Mais il est bien fait, donc ça peut être intéressant d'aller le voir.
Le découvrir.
Le découvrir.
Le mage du Kremlin, pour vous, Laetitia, Amour Apocalypse, pour moi, et puis Diamanti aussi. Et je partage avec vous, Guillaume, et vous, Laetitia, Le mage du Kremlin. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Merci, Guillaume.
Merci,
merci, Marie. Laetitia.
Merci, Louis-Marie.
Et on se retrouve la semaine prochaine.
La prochaine fois, on ira au cinéma.
Pour mieux connaître Présence, tapez www.radioprésence.com.